Les chemins de traverse, escapade à Belle-Île-en-Mer, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Dans cette série des chemins de traverse, je vous emmène pour une escapade sur l'aînée des îles du Ponant. Bonjour et bienvenue pour une visite insolite de la plus grande des îles bretonnes, Belle-Île-en-Mer. Dernier rendez-vous sur un des sites les plus grandioses de Belle-Île, l'apothicairerie Stervraz, abritant la réserve naturelle de Caucastel. C'est en compagnie de Robin, de l'association Bretagne Vivante, que nous sommes partis depuis le parking de l'apothicairerie à la découverte de cette réserve et de ses richesses naturelles. En cheminant sur le sentier côtier, nous sommes arrivés à la pointe de Caucastel. Après avoir observé, vu et entendu les craves rouges, Robin nous parle d'autres corvidés présents sur le site, les corbeaux.
On a aussi le grand corbeau en fait. Alors c'est un corbeau qui est vraiment de taille imposante. Il fait quasiment la taille d'une buse en fait. Qui vient nicher en Bretagne. Après ils ont un peu de mal quand même parce que c'est pas un endroit qu'ils connaissent particulièrement bien et le climat est un peu différent quand même qu'un milieu montagnard. Mais voilà, c'est des oiseaux qui de plus en plus viennent nicher ici sur le littoral breton.
Vous avez dit qu'ils viennent?
Ouais.
Comme s'ils faisaient le trajet?
Non, qu'ils viennent de manière nouvelle quoi. Bah, ils ont fait le trajet, forcément, de toute façon. Généralement, en fait, il y a une migration qui est plus ou moins importante chez ces espèces-là. Et ça arrive, par exemple, qu'ils passent... Il y a un couloir pour le grand corbeau qui passe en centre-Bretagne. Et des fois, ils s'arrêtent à cet endroit-là, quoi. Et c'est pas rare que des fois, ils s'arrêtent de manière définitive, quoi. Qu'ils posent les bagages, quoi. Mais en fait, ces oiseaux-là, il y a une histoire de territoire aussi. Et quand ils vont avoir... un manque d'espace chez eux, ils vont avoir tendance à aller chercher un territoire ailleurs. C'est des jeunes qu'on va appeler erratiques, quoi, qui vont chercher, tourner et essayer de trouver un coin pour se poser, quoi.
Maman, va trop près, tu vas les faire s'envoler. C'est le reste d'un rapin goéland.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Non. C'est les pelotes de réjection.
Comme les chouettes?
Ouais, en fait, on pense souvent que les rapaces nocturnes sont les seuls à faire ça, mais tous les rapaces le font déjà.
Goélands, c'est un rapace?
Non. Et après, les goélands aussi, beaucoup d'oiseaux, en fait, ils vont manger des choses qu'ils peuvent pas digérer. Font ce genre de choses. Non, c'est juste qu'ils vont pas pouvoir digérer tout, et puis après, c'est trop de minutie si vous voulez vraiment ne pas en manger de coquilles et des choses comme ça. En fait, ils s'embêtent pas, ils prennent tout et...
D'accord.
Ça ressortira. Et ça ressort par la bouche. Pelote de réjection, c'est... Ils recrachent, en gros, ce qu'ils peuvent pas digérer.
Escapade des goélands.
Donc vous pouvez voir là qu'on est quand même sur le reposoir des goélands. Alors c'est surtout quand il fait moche, parce que le vent arrive de la façade océanique qui est derrière, ce qui fait qu'ils ont tendance à se replier ici quand il fait moche. Ils sont à l'abri du vent, derrière les buttes, là. Et donc vous voyez toutes les plumes qu'il y a, la végétation est un peu cramée. Alors ça c'est parce qu'il chie partout, donc la fiente de goéland est très très corrosive en fait. La végétation en prend une claque généralement. Et les petits groupes que vous avez comme ça là, ça c'est les restes de repas de goéland en fait. Ils font comme les rapaces.
C'est la pelote
de réjection, ouais. Oui, parce que déjection, c'est tout ce qui est crotte, ce genre de choses. Réjection, ça va ressortir par la bouche. Et c'est les éléments non digérés, en fait. Donc là, en plus, si vous regardez, c'est... Alors, il y en avait une qui est là. Sous le pied, on voit qu'il y a des pinces.
Des crabes.
Alors, ouais, je sais pas trop. Des trilles, sûrement, un truc comme ça. Et donc là, lui, il a essentiellement mangé ça, mais il a aussi mangé visiblement quelques moules. Ça y ressemble. Après, on peut trouver des petits os. Ça, c'est des écailles de poisson, essentiellement, qui sont séchées. Donc lui, il a mangé poisson, là, il y a de la moule. Et alors après, on a des choses un peu plus originales comme ça, mais pas forcément super.
C'est pas du papier.
Et donc, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est essentiellement les goélands argentés qui vont aller fouiller les poubelles et les décharges environnantes, qui vont se nourrir là-bas. Et alors, on comprend pas trop pourquoi, mais on en retrouve du papier dans toutes les pelotes de goélands argentés. Alors on se demande si, dans un sens, ils ont pas une faculté de digestion d'une partie de la cellule du papier. Parce que d'en retrouver à ce point-là, il faudrait qu'ils fassent exprès d'en manger pour vraiment qu'il y en ait tout le temps, quoi. Donc voilà, c'est des choses dont on se rend compte petit à petit. Alors souvent, quand c'est un régime plus marin comme celui-là, c'est essentiellement du goéland brun. Si vous regardez les goélands qui sont là, il faut regarder les pattes. Donc je vais mettre la longue vue. Si les pattes sont jaunes, c'est que c'est un goéland brun. Si les pattes sont roses, c'est que c'est un goéland soit argenté, s'il fait à peu près la même taille. Mais après, c'est du marin, mais faut qu'il soit assez gros quand même. Donc, mais en tous les cas, pas de jaune, pas d'erreur possible. On est sur du goéland brun. Donc derrière ces collines là, qui sont pas du tout naturelles d'ailleurs, ça a été répertorié ici comme des mottes féodales. Donc ça date de l'âge de fer à peu près. C'est des structures un peu comme les oppidums gallo-romains là. C'est des structures a priori plutôt militaires ou de défense en tout cas, qui servaient. Alors là, il n'y avait jamais eu d'études archéologiques qui ont été faites. Il y a juste eu des passages et ça a pu déterminer des âges. Mais il n'y a jamais eu les fonds nécessaires pour approfondir. Et en fait, ces mottes-là, là, on pense que c'était pour signaler aux gens qui arrivaient par la mer qu'il y avait déjà une présence sur cette île, en fait. Parce qu'on ne comprend pas trop leur positionnement, sinon. Parce que généralement, ça aurait été pour s'abriter. S'abriter de ce côté-là, ici, c'est quand même relativement dégagé. C'est pas forcément le meilleur endroit pour faire un camp. Et de l'autre côté, on est battu par les vents marins à peu près les trois quarts du temps. C'est pas des conditions super pour poser un endroit... Donc on pense que c'était essentiellement des choses pour signaler une présence. Alors il y avait peut-être des feux au-dessus, ce genre de choses, mais voilà. Ça demande à être approfondi. Mais en tous les cas, c'est pas d'origine naturelle.
Un peu d'histoire. Les premiers vestiges humains sur Belle-Île remonteraient entre 3500 et 1800 ans avant Jésus-Christ avec les menhirs Jean et Jeanne, situés à l'embranchement de la route principale menant à la plage de Donan. Un troisième menhir, la pierre Sainte-Anne, est situé sur la route reliant Bangor à Locmaria. L'île a conservé également des tumuli, dont celui de Bordérin. Sur la côte sauvage, il daterait de l'âge du bronze entre 1800 et 500 ans avant Jésus-Christ. Autre vestige d'un passé reculé, celui près duquel nous sommes arrivés avec Robin, l'éperon barré de Cocastel, situé à la pointe du vieux château. Ce camp vénète, dit à rempart unique, est construit en terre mêlée de pierrailles et est précédé d'un large fossé. Fréquenté également à l'époque gallo-romaine et médiévale, le camp fut rehaussé sous forme de motte castrale au Moyen-Âge. Il accueillit alors l'architecture des premiers châteaux forts en bois. Allez, retour au 26 juillet 2014 sur la motte féodale de Cocastel avec Robin, notre guide pour cette sortie nature.
Celui qui est au milieu des autres, là, celui qui est plus noir, c'est quoi ?
Alors, celui qui est juste là.
Oui.
Alors ça, c'est un jeune de l'année. C'est un poussin qui... Alors, lui, doit être volant, a priori. Il a encore un peu de duvet sur la tête, mais c'est léger. Et il n'est pas bagué. Vous pouvez l'appeler Grisard. Si, après, c'est vrai que l'âge chez les goélands, ça varie entre... Enfin, les plumages juvéniles, c'est entre 1 et 3 ans, généralement. Mmh. Mais il commence à y avoir des signes, quand même, quand c'est les plus âgés, du plumage adulte. Donc la colonie qui est derrière, c'est une colonie de goélands bruns. Il y en a 3000 à peu près individus. Et c'est la colonie la plus importante de Bretagne, quasiment, là, depuis relativement peu de temps. Mais ça, elle grossit, en fait, d'année en année. C'est des colonies qui sont baguées, en fait. Les goélands qui naissent ici, depuis cette année, on les bague, en fait. On a fait une campagne de bagage il y a 2 semaines, où, en fait, on vient et on attrape les poussins qui sont pas volants. Et puis on leur colle des bagues aux pattes pour histoire de savoir où est-ce qu'ils vont. Et c'est aussi par rapport à d'autres projets qu'il peut y avoir dans différentes baies en Bretagne, notamment sur l'éolien offshore, tout ce qui est éolienne en mer, là, pour savoir si ça a un impact sur les oiseaux de mer. Là, on a fait ça là il y a 2 semaines à peu près. Là. Du coup, là, ça va être la fin. Dans 1 semaine, 2 semaines, ils vont être tous quasiment volants et la colonie va lever normalement. Et c'est pour ça que l'arrêté que vous avez là-bas, là, il est défini pour une période assez précise. Et donc, il sera levé dès que la colonie aura fini sa reproduction, quoi. Entre-temps, c'est fermé pour éviter au maximum le dérangement, quoi. Donc, c'est essentiellement du goéland brun et on a du goéland argenté aussi et du marin. Alors, c'est assez intéressant de voir sur le... Là-bas, sur la pointe, les goélands argentés vont se répartir sur toute la bordure, vraiment, au niveau de la mer, quoi, dans la falaise. Les goélands bruns vont être légèrement en retrait, plus à l'intérieur, et après on aura les marins vraiment au centre. Il y a une espèce de hiérarchie de groupe assez intéressante.
Et ils mangent quoi, en fait ?
Le goéland, il va manger essentiellement... Alors c'est du poisson, des crustacés, des mollusques, des coquillages, ce genre de choses. Mais souvent, c'est des trucs qu'il va aller chaparder ailleurs, un poisson mort, des coquillages qui traînent, qui sont pas très en forme sur la plage. Ou... Il est un peu charognard dans un sens. Mais puis après, c'est chose qu'on n'imagine pas forcément, mais il mange aussi des petits des autres goélands. Hein. Les goélands sont pas très, très, très civilisés entre eux, et du coup c'est pas là, il y a pas mal de cadavres dans le... Donc ce qu'on peut faire à la limite, si vous voulez, et puis ce sera la fin après, je peux vous emmener sur le dessus entre les deux buttes là. Comme ça vous aurez une vue d'ensemble de ce qu'on voit derrière de l'autre côté, la végétation, les quelques poussins qui peuvent éventuellement rester. Voilà. Et puis ça évitera de créer trop de dérangements à cet endroit-là, ils ont l'habitude que les gens viennent compter en fait.
Est-ce que dans les colonies, il y a des chefs, ou pas ? Par exemple, un chef qui dirige la colonie ou pas ?
Ah, tu veux dire, ouais, dans la hiérarchie des oiseaux ? Non, non, non. En fait, ça se joue plus avec les poussins. En fait, les parents vont être très protecteurs par rapport à leurs poussins. Donc, il y en avait un tout à l'heure, c'était assez marrant, parce que tu vois, l'adulte là-bas avec le poussin.
Oui.
Et ben, il le protège. Tout à l'heure, il y a celui de gauche qui est venu voir le poussin et il a commencé à le repousser. Donc tu vois, c'est des choses... En fait, ça se joue plus sur où est le poussin. Ouais. Si le poussin est à tel endroit, il y a comme un mini-territoire autour.
Il tape parce que il fait à manger, non ? C'est ça, il fait comme ça.
Alors souvent, ouais, chez les goélands, ils vont taper la tache rouge qu'ils ont sur le bec. Là, c'est pour indiquer aux petits, quand ils ont une très faible vue au début de leur éclosion, que c'est à cet endroit-là qu'il faut demander de la nourriture. Quoi. Oui. Et donc, ils tapent avec le bec et hop, le parent...
Et la femelle et le mâle ont la tâche.
Oui, oui. Les deux s'occupent du petit à la même proportion.
Et ça, c'est une plume, monsieur.
Ouais.
Et ça, c'est à peu près quoi ? Vous vous direz, c'est quoi comme plume ?
Le goéland, et après, il y a des chances ici que ce soit un brun. Et ça a l'air d'être... Une plume de jeune, ça, tu vois, parce qu'elle a encore pas mal de taches.
Est-ce que vous pensez la garder ?
Ah bah oui, du coup, salut tout ce qu'il y a. Donc vous voyez bien les pattes jaunes hein, des goélands.
C'est bien réparti quand même.
Entre eux, ils se chapardent facilement des petits. Alors...
Ah oui.
Ah oui, oui. Ouais. Ils les mangent. Les autres couples, ils vont manger des goélands, les petits des autres couples, les goélands. Ils sont pas très sympas entre eux. Donc l'essentiel de la colonie est là, surtout dans cette partie-là, dans toute la végétation verte. Mais vous voyez, c'est une végétation assez haute finalement. Ce qui explique que, bon, ça va, pour la recouvrir après, on les trouve. Mais à la limite, c'est plus difficile de les trouver que de... On a moins de cas où ils courent vraiment et ils sont chiants à attraper. C'est plus les trouver déjà qui est... Faut battre tout ça au peigne fin. On est arrivé avec le bateau de 10h et on a commencé à 11h et on est resté jusqu'à 18h.
Ça tourne, on doit les baguer en environ
160 seulement. C'est pas tant que ça. Parce qu'il y a 3000 goélands sur le secteur. Mais c'est déjà pas mal, ça nous donnera déjà des bons aperçus. Et donc ils nichent, voilà, essentiellement là-dedans. Si vous voulez voir la différence dont je vous parlais tout à l'heure, là il y a un goéland argenté sur le piquet. Et on voit ses pattes roses. Et alors en falaise là-bas, c'est difficile à montrer en fait, mais derrière il y a aussi un autre oiseau qui niche, qui est beaucoup plus rare entre guillemets. Enfin les nids sont rares en tout cas. C'est le fulmar boréal, c'est un oiseau de mer. Je pourrais pas vous le montrer parce qu'il faudra qu'on soit encordé et tout ça. Mais je peux toujours vous montrer à quoi ça ressemble. C'est jamais perdu. Fulmar. Alors lui, c'est un oiseau qui est beaucoup plus marin. Et il a des ailes assez particulières. Ça fait un peu une croix quand il vole. Il est très rigide dans sa position. Et donc c'était sur cet endroit-là qu'étaient postées les mouettes tridactyles. C'était sur les falaises réellement, donc c'était visible de la mer.
Et on sait pourquoi est-ce qu'elles sont...
Bah non, faudra leur demander si jamais tu descends en Espagne ou que tu montes dans le Grand Nord. Tu leur poses la question, moi je veux bien savoir aussi, ouais. Ça fait partie des mystères, hein. De toute façon les oiseaux c'est un peu comme ça aussi, ça change beaucoup d'endroits.
Peut-être que c'est les goélands qui prennent
trop de place. Ouais, peut-être que c'est les goélands qui mangeaient trop de poussins aussi, qui les dérangeaient trop pendant la reproduction.
Ils sont allés voir ailleurs.
Ouais. Donc elles sont allées voir ailleurs, ouais. Effectivement. C'est souvent ce qui se passe finalement. C'est un processus normal de toute façon. Donc voilà, votre périple avec moi est terminé.
Ben, merci.
Merci bien.
Merci bien.
C'était très intéressant, merci.
Un grand merci à Robin pour cette sortie nature. Au revoir et à très bientôt pour la suite de cette escapade maritime à Belle-Île-en-Mer.